Présente Focus tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM
98 FM. Focus
98 FM. Bonsoir à tous et bienvenue dans Focus, l'émission qui interroge les parcours, partage les univers. Comme à chaque fois, je suis avec Sidi. Comment est-ce que tu vas?
Ça va très bien, Mélik, et toi?
Bah moi non, pas du tout.
Je suis grippe.
Là, mais t'as vu, je suis venu quand même.
C'est-à-dire que regarde, je suis mort. Parce qu'aujourd'hui, les gens.
Voilà, tu mens, frère. En fait, tu voulais pas venir. En fait, dis-le. Non, je plaisante.
Justement.
Mais moi aussi, c'était pareil. T'as vu ce matin, j'étais vraiment pas bien. Et tu sais, t'as vu, il y a des messages qui nous le disent.
Exactement.
Mais bon, écoute, on est là parce que c'est l'émission, c'est Focus. On est vendredi et puis on est obligé d'être là, d'être présent justement.
On est jeudi, t'es trop pressé.
Ça passe le vendredi, c'est pour ça.
Okay. Cet effort de venir malgré la maladie, on l'a fait pour les auditeurs, pour l'équipe, mais en partie pour la voix que vous venez d'entendre.
Exactement, exactement.
Patrick Ebongué, comment est-ce que tu vas?
Très bien, merci pour l'invitation.
Et on était obligé, c'est pour ça qu'on était obligé. On était ravis de te recevoir et on était obligé justement.
Merci, je suis très très bien accueilli et je suis très content de revoir des frères.
Ça fait plaisir.
Parce qu'en off, il y a eu des connexions qui se sont faites un peu sur les amitiés.
Toujours. Attention, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur de la musique. C'est un grand monsieur aussi par la taille et tout. Mais en tout cas, voilà. Mais ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là et d'avoir répondu présent justement à l'invitation. Justement, on va essayer de te découvrir tout au long de l'émission, de voir un peu ton parcours, qui tu es. Et puis, nous, on connaît un peu, mais bon, l'idée, c'est de te faire découvrir, justement.
Et pour teaser un peu, t'as été producteur, manager d'artiste. C'est des casquettes que t'as encore. T'as énormément de casquettes aussi aujourd'hui. T'as eu une belle évolution après ce parcours-là.
Vous écoutez Focus sur IDFM Radio 98 FM.
Aujourd'hui, on reçoit Patrick Ebongué. On va parler musique, production, management. Yes. On a plein de choses à dire.
Je pense,
Mais avant ça... On a eu une petite menace.
Il nous a menacé. Une petite. C'est vrai. Jamal, comment tu vas, Jamal?
Alhamdoulillah.
Impeccable.
On était obligé de le placer parce que sinon, ça serait pas sorti.
T'es fou, on est mort après. Et justement, on est avec Patrick, justement, alias Patou, dans le milieu.
Ouais.
Tu vois? Et nous, ça nous fait très plaisir que tu sois là et on va essayer de parler un peu de toi, de te découvrir.
Plaisir est partagé.
Et de voir ton parcours, comme Mélie qui l'a dit, en tant que manager, en tant que co-producteur de première classe.
Ça
me parle un peu plus, Mélie. Et puis voilà, donc justement, tu peux nous dire un peu de comment tout ça démarre? Ça veut dire que les gens, généralement, tu vois, dans les années 90, tout ça, on est tous un peu dans le rap, tout le monde veut essayer de rapper un petit peu, mais toi, comment tu te dis, moi, je vais changer ma casquette et justement, je vais produire des artistes? T'as commencé par le rap ou comment t'arrives dans tout ça, justement?
Bon, déjà, je suis d'un quartier où la musique était vraiment prédominante et on avait des stars dans notre quartier, Stomy Bugsy notamment. Okay. Avant qu'il déménage à Sarcelles, parce que beaucoup de gens ne savent pas, mais Gare Sarcelles, c'est deux villes.
Ouais.
Les gens ont tendance à croire que c'est une seule ville. Donc les Nègres Marrons aussi chantaient déjà. On avait plein de groupes aussi au collège, etc. Bon, moi, j'ai jamais vraiment rappé, mais je marchais avec les mecs qui étaient au micro. Et Kenzie, qui était aussi dans notre rue.
Okay.
Kenzie, qui était le bel patron du secteur 1. Il regardait aussi ce que les plus jeunes faisaient à l'époque, puisque Kenzie doit avoir 6-7 ans de plus que moi.
D'accord.
Je pense, peut-être un petit peu plus. Et il regardait ce qu'on faisait. Nous, on était là, on était dans les ambiances et tout. Et un jour, il nous a emmené au studio. J'ai arrêté de faire les conneries, on a été au studio et puis ils ont enregistré Minister Hammer. Il y avait Stomy qui avait déjà déménagé à Sarcelles, mais. Et ils ont enregistré les premiers maxi, ils ont fait un premier clip tourné par Rapline.
Ok.
Je me rappelle pas, mais bon, c'était peut-être retraite, mais l'année, je me rappelle pas de l'année, mais je pense que c'est 89, 90 peut-être.
Ouais, c'était avant les années 90, ça, tu vois.
Et donc au clip, on est, si tu fais attention, dans ce clip-là, il y a tout le monde.
D'accord. Quand tu parles de tout le monde, ça veut dire qu'on va resituer, ok,
il y a Doc Gineco, le ministère Hammer, donc Passy et Stomy qui rappaient déjà dans ce clip-là avec Moda. Mais tous ceux, tous les, enfin, les novices, tous les mecs, okay. les Arsenic, toutes ces personnes-là sont dans le clip.
Sont déjà dans le clip.
Même Iso, qui est le bassiste, guitariste, qui a travaillé un peu avec tout le monde, il est dans le clip. Ouais. Il a joué, donc tout le monde est là. Et je pense que c'est à ce moment-là que je prends, enfin, j'étais déjà dedans, mais là, vraiment, je me dis, mais non, c'est ça le truc, en fait.
C'est ça que tu veux faire. Ouais. C'est, mais tu sais déjà que tu vas te positionner en tant que...
Non, je sais pas encore, okay. parce que quand ça sort, le clip, on est tous très très jeunes, hein, on est au collège en vrai. Okay. Tu vois, je dois avoir 14-15.
D'accord.
Tu vois, c'est pour ça que je te dis quand Kenzie.
Et lui qui était déjà un peu.
Il a 20-21 ou peut-être 22, tu vois.
Il était déjà dans le truc.
Voilà,
en fait,
voilà exactement. Donc c'était un peu nos référents. Et après, donc les grands frères, ils faisaient ça. Nous, on s'est dit, bon, à notre sauce, on va faire à notre échelle, petit à petit, tu vois.
Okay.
Et quand l'album, donc 95-200, s'enregistre. Et celui-là, il sort en 94, là, j'ai 19 déjà.
D'accord.
J'ai 19, donc du coup, je vais au studio avec eux et là, je commence à prendre goût.
Goût.
Tu vois, goût. Tu es au studio, il y a tout le monde, il y a Gynéco, il y a Stomy Passy qui sont un peu plus vieux que moi aussi. 3 ans, je pense.
Okay.
Donc, pas je pense, ils ont 3 ans de plus que moi. Je suis avec eux tous les jours au studio. L'enregistrement de cet album qui pour moi est un classique.
Ouais, c'est un classique. C'est pas que pour toi, pour beaucoup de personnes, voilà, qui vont écouter l'émission, ils vont se dire,
c'est un classique. Tu vois, j'étais en train de le vivre en live et direct, quoi.
Incroyable. Tu vois.
Et toutes les histoires qu'il y avait pendant l'enregistrement de ce projet, j'y étais. Après, tu te dis, non, nous aussi, on doit faire ce truc-là.
Et tu dois faire partie de ce truc-là, en fait, c'est
exactement,
ça.
Hein, exactement.
C'est fort.
Et à ce moment-là, est-ce que t'as à côté de la musique, t'as des rêves, des ambitions, des projets, ou au moment où tu découvres tout ça, tu te dis vraiment, je me concentre là-dessus à 100% et je vais en faire ma vie?
Honnêtement, pour être honnête, quand j'y suis, mais en vrai, les parents, ils te font comprendre, va à l'école, en vrai, tu vois. Après, nous, on était des enfants parfois un peu turbulents. mais à cette époque-là, je vais à l'école. Et dès que je peux, voire même parfois, bon, c'est chez les cours pour aller être en studio avec les grands, parce qu'ils sont plus vieux que moi. Mm-hmm. Mais à l'époque, bon, j'ai des ambitions, mais je sais pas forcément que je vais vivre ou que ça va devenir mon métier. Ça, je peux pas te le dire là quand j'ai 19 ans, mais je suis plutôt dans un truc où j'accompagne les grands de mon quartier qui font un projet qui me fait kiffer et que j'aimerais faire, mais je sais pas encore comment, puisqu'on connaît pas le métier. Et en réalité, on a appris en regardant les plus grands. Donc t'étais là, t'es au studio, mais en même temps tu regardes ce qu'il fait. À l'époque il y a pas de téléphone, mais enfin pas de téléphone portable, mais quand il appelle, quand il reçoit un appel au studio et qu'il parle de stratégie ou comment il voit le truc, tu vois, parce que les stratégies à l'époque, quand ils ont pensé à utiliser le département, le code de Sarcelles, inspiré d'une série là, Beverly Hills.
Ah ok, tu vois, c'est vrai, 80, ouais, c'est ça, c'est ça.
Voilà, j'aime bien, ouais. J'aime bien.
C'est bien, c'est bien parce qu'on on découvre les références, en fait, on se disait,
ouais,
tu vois.
Ouais, parce qu'en fait, Beverly Hills, la série, tu sais, il y avait le code postal de Beverly Hills.
95 quelque chose,
machin, je sais plus trop. Et ben nous, on l'a décliné en 95-200.
Ok.
C'est vrai que on a été, enfin ils ont été, le ministère Amers, je pense que c'est le premier groupe qui a
c'était
vraiment...
C'était les précurseurs justement de ça, par rapport au département, voilà, le fait vraiment, de revendiquer,
vois,
tout ça.
Oui, carrément, le titre de l'album, c'est le département, et eux, quand les autres, ils mettaient les villes des États-Unis, eux, ils faisaient des maillots de baseball et autres, il y avait écrit Sarcelles.
Ouais.
Il y avait que nous qui faisions ça.
Très patriote.
Ouais, 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 ils avaient New York, ils avaient des maillots d'autres équipes. Ah non, mais ils allaient loin, ils avaient même le maillot de foot de Sarcelles, tu vois, de foot Sarcelles, baseball Sarcelles, football américain Sarcelles, tu vois.
Ouais, mais finalement, tout ça, c'est du marketing, la com et tout, en fait, ils ont inventé les premiers codes du
Exactement, c'était déjà à l'époque, et c'est vrai qu'après, ça a pris, parce qu'après, ça s'est revendiqué aussi 93, tu vois, avec 95, il y avait le 7-7 aussi qui est arrivé, 7-8, tu vois.
Et je pense aussi qu'à l'époque, le ministère, beaucoup de jeunes de quartier se reconnaissaient en eux. Parce que,
avec sacrifice de poulet et tout ça.
Déjà, sacrifice de poulet, même les tenues vestimentaires aussi.
Ouais, c'est vrai.
Parce que le rap parisien, tu vois, la Clica, NTM, tous ces mecs-là, ils étaient vraiment dans des styles purement new-yorkais, même dans le vestimentaire.
C'est vrai.
Et dans les quartiers, on ne s'habillait pas comme ça. Donc quand ministère, ils ont fait leur première pochette, ils avaient des Levi's 500, des classiques.
Les Reebok classiques.
Ou des Stan Smith. Bah, les mecs, je pense, ils avaient la sensation que, mais ces mecs-là, ils sont comme nous. Et ils parlent de choses qu'on vit quotidiennement. Et je pense que c'est là où pas mal de gens ont adhéré Donc ils parlaient des sujets qui sont encore aujourd'hui d'actualité.
Ouais, ils se sont reconnus en ces
artistes. Ouais, je pense que ça a pas mal joué. Je pense que c'est le rap, on va dire le rap de Kaira, les premiers à en avoir fait, bah c'est eux.
Mais toi, du coup, dans tout ça, quand t'étais simple observateur, c'est vraiment l'aspect communication, marketing, stratégie qui t'a vraiment tilté, qui t'a fait un truc au cerveau. Tu t'es dit, ça c'est intéressant, il y a un truc à faire et j'ai envie de me lancer.
Bah, c'est des mots qu'on a connus ou compris bien après. Parce que même nous, quand on a sorti nos projets, on faisait du marketing, mais en discutant, sans savoir que ça avait un nom.
Et justement, je te coupe quand tu dis que même nous, donc ouais. Toi on sait, mais à cette époque-là, en fait, le nous, c'est qui?
Bah écoute, Jackie, Benji.
Ok, les Nègres Marrons.
Voilà, les Nègres Marrons, ouais, pardon. Stéphane Djigui, qui est mon ami, mon meilleur ami. On était ensemble, on marchait tout le temps ensemble.
C'est le troisième de.
On était cinq. Okay. Au départ, on est quatre. Et on rencontre Pete Bacardi à La Rochelle, je sais plus quelle année. Et on connecte aussi.
Ok.
Et à l'époque, il était encore avec Time Bomb, mais en instance de transfert, on va dire.
De transfert. Ouais. C'est comme au foot, tu vois. Ça veut dire à un moment, ça se passe un peu moins bien. Et c'était comme ça, en fait, à l'époque, tu vois.
Et on a commencé à traîner tous ensemble. Et on essayait de. On parlait de nos rêves, nos idées. Et à un moment, on les a couchés sur papier. On a dit, vas-y, on le fait. On avait quel âge, je sais plus, on est la vingtaine, pareil. Moi, j'étais. Étudiant, en même temps, je faisais des jobs là, de télémarketing, là où tu réponds au téléphone. Donc j'avais un peu d'argent. À un moment, on avait un peu tous de l'argent. On a dit, bon, vas-y, on veut en faire un maxi.
Ok.
On a fait le maxi qui est devenu notre plus gros titre au final, le premier, le plus gros.
Justement, le plus gros, pour ceux qui ne connaissent pas le titre du.
Si on fait les choses.
On fait les choses.
On fait les choses, ouais.
C'est un gros maxi, ça.
C'est un morceau, même sans avoir tout l'historique, parce que moi je découvre un peu que j'ai dans ma playlist.
Mais en même temps, il est pas démodé. 25 ans après, tu vois, il est incroyable ce son, tu vois.
Ah oui, en plus, c'est une anecdote que j'ai déjà raconté dans d'autres podcasts. En fait, quand on décide de coucher, on se dit, venez, on fait un titre, on kiffe, on fait venir des mecs de plusieurs départements pour le coup, parce que c'était aussi l'idée. On dit 9-4, à l'époque, on avait pensé à Kerry James, c'est Kerry James qui devait y être à la base. Et Kerry James, il a décliné le jour même, je pense, ou la veille.
D'accord.
Et il a appelé, c'est Jackie qui connaissait bien Kerry et qui avait appelé Kerry. Et Kerry a dit, je peux pas, mais par contre, j'ai un gars à moi, il est super fort, je vous l'envoie, faites-moi confiance, il est bon. Bah, c'était Rof.
Incroyable. Et pourquoi cette idée? Parce que tu vois, maintenant, aujourd'hui, tu vois, 25 ans après, cette idée, vous étiez les premiers, en fait, à le faire. Ouais. À l'époque, tu vois, Secteur A, première classe. Mm-hmm. Parce que Secteur A, ça arrive aussi un peu après.
Alors, non, ils sont arrivés avant.
Ça arrivait avant, mais le première classe avec justement aller chercher les autres.
Ah oui, non,
toi, les artistes.
Ça se faisait pas beaucoup,
ça. Ça se faisait pas beaucoup.
Voire pas du tout.
Et ouais. Donc, et cette idée, elle vient de qui? Comment, en fait, tu te dis, bon, écoute, on va essayer de rassembler un peu les mecs du 93, 94.
Au début, c'était vraiment de l'émulation. On se disait quoi? Les rappeurs qui sont forts dans tel département, c'est qui? Franchement, dans le 9-4, c'est lui, dans le 9-3, c'est lui, machin. Mais pourquoi on les met pas ensemble? Ça se trouve sur un titre. Et puis ça se faisait aux États-Unis aussi. Ouais. Quand on voyait les remixes de Greg Mack et autres.
Greg Mack.
Tu vois, il y avait des remixes à chaque fois avec plein de rappeurs. Mais on disait, mais en France, on fait jamais ça.
OK.
On s'est dit, bah, pourquoi on le ferait pas nous? Et on a dit, ouais, on connaît tout le monde. Enfin, on connaissait tout le monde, on connaissait certains. Et puis on n'était pas si. Il n'y avait pas autant de musique, il n'y avait pas autant de rappeurs qu'aujourd'hui. Du coup, on a appelé. Ceux que je t'ai cités, donc on a appelé Kerry James, que Jackie connaissait. Kerry James nous a connecté avec Rof. Bissona Bisso, ça commençait à s'enregistrer, donc Benji était avec Mystique un peu. Enfin, beaucoup même, ils avaient un groupe, mais c'était pas sorti à l'époque, mais ils avaient commencé à enregistrer. Les Nègres Marrons eux-mêmes étaient déjà partie intégrante du label, et comme on commençait à marcher avec Pete, on a dit on fait comme ça. Et ça a donné, on fait les choses.
Incroyable.
Et toi, à quel moment tu te dis, là, clairement, il y a un vrai truc à faire, ça se concrétise, et potentiellement, on peut en vivre de tout ça, et c'est plus qu'un rêve.
C'est très simple. Ça, je m'en souviens parfaitement. Donc, à l'époque, on avait pressé un nombre de maxi, dont je me rappelle pas le nombre exact d'exemplaires, mais je suis une connerie, on en a fait 500, disons, par rapport à nos moyens. Il y a une boutique à Châtelet qui s'appelait...
Petit Carrette ?
Non, pas Petit Carrette... Jamal, la boutique à Châtelet, en modèle à vinyle, là.
C'était... Attends.
Celle où il y avait Clovis, là.
Ah, tu parles de
Urban Music.
Urban Music.
Ok, donc on va chez Urban Music. Et à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Ça veut dire que le mec, il prend le vinyle, il écoute. écoute la prod de Jimmy Finger pour le coup. Il écoute le premier couplet, il dit ah ouais, mais il dit je les prends tous. Donc il les prend tous, il nous les achète. Genre, allez, 10 jours après, 15 jours après, il nous rappelle. Il nous faut encore des vinyles. Donc on represse des vinyles. Et on fait comme ça, genre 3-4 allers-retours à represser des vinyles, à prendre de l'argent, à represser des vinyles. On dit putain, merde, c'est une dinguerie.
Et, ouais, c'est fort, c'est fort.
Et du coup, on se dit, bah, il faut qu'on en fasse un autre en fait, parce que ça a pris. Et du coup, on fait le deuxième maxi. C'était donc Laura Luciano, Don Choa et Lino du groupe Arsenic. Même chose.
C'est parti.
Ça part. Et on a fait. Après, on a dit, mais là, il faut qu'on fasse carrément un projet.
Et c'était l'album.
Et le troisième, là, c'était avec Ekwe, Keridiem, non pas Keridiem, Ekwe, Calbo, Vasquez et Karine. Et sur le troisième, là, on sort le projet et on fait un clip, l'art de la guerre, qu'on avait tourné en Angleterre à l'époque.
C'est beau, hein.
Là, c'est incroyable. Et puis, et puis tu vois, en fait, tout le cheminement, tu vois. Aujourd'hui, c'est facile, tu vois. T'as les réseaux, tu vois. Donc, tu peux avoir une traîne qui va partir et voilà. Mais là, en fait, faut que tu te dises, les mecs de quartier, ouais, qui enregistrent. Et tu vois, l'industrie musicale à ce moment-là, t'as vu, c'est super fermé aussi, il faut dire, tu vois.
Surtout pour nous.
Ouais, c'est parce que déjà, d'une, t'as pas les codes, mais t'arrives en fait avec la musique première, tu vois, le rap là, qui à cette époque-là, personne sait que le rap va devenir ce qu'il devient aujourd'hui,
oui,
tu
bien
vois.
Sûr, bien mais dans sûr. La chronologie, il y avait déjà IAM et NTM qui étaient au-dessus.
Oui, ça, ils étaient au-dessus, mais là, en fait, comme tu nous le dis, pas tout, c'est que t'arrives et en fait, c'est le rap de cité, le rap de rue, en fait, tu vois. Et c'est là où beaucoup de personnes se retrouvent justement sur tout ce qui est première classe, la compile qui arrive après derrière, tu vois.
Tout à fait. Et c'est pour ça même les mecs quand on les appelait aussi, ils étaient réceptifs.
Ben,
tu vois, on était pareil. C'est-à-dire quand on appelle Rof, Kerry James, même si c'est des mecs de Vitry ou d'Orly, nous étant mecs de Sarcelles Garges, il y a des codes similaires, on se comprend tout de suite, quoi.
Ouais. Il y a des codes similaires et justement il y avait aussi ce côté une petite rivalité aussi par rapport à ça, non, tu vois.
Il y avait je pense que la rivalité était plutôt artistique, hein.
Ouais.
On n'avait pas de problème avec eux.
OK.
Non.
Mais c'est peut-être aussi ce qui véhiculait en fait l'image du fait que c'était 95 avec justement Stomy et tout ce que ça représentait, tu vois, Stomy, le Ministère Hammer et les mecs du 94 aussi ou d'autres.
Oui, en fait, nous pour être honnête, le groupe, si on parle de groupe, ouais, c'était NTM un peu avec qui il y avait un souci.
Exactement.
Ou les anciens, peut-être, je sais pas, ils sont retrouvés dans des bagarres à l'époque où moi j'étais plus.
Et Stomy, justement, il en parlait, justement. Bon, ouais, il avait. Pas mais à culpa, mais il a dit, voilà, l'eau a coulé sous les ponts maintenant, tu vois.
Ah, bien sûr. C'était pas bonjour. Il s'appréciait pas du tout. Mais c'était avec un groupe en particulier de Saint-Denis qui est NTM.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, nous, on avait un style qui nous correspondait et eux ils étaient dans une autre direction, tu vois, les mecs de même dans les influences de ce que nous écoutions à l'époque, tu vois, c'était un peu plus West Side,
ouais,
parce que même si bon j'aime bien le son new-yorkais, mais tu vois le West Side dans le propos, dans les attitudes vestimentaires, on se reconnaissait plus en eux que des mecs qui mettaient des bonnets avec des lunettes de ski, par exemple.
Ouais.
Tu vois.
En gros, c'était Method Man et tout ça. Ça veut dire le Wu-Tang, les mecs de Marseille, les mecs de New York. Et après, voilà, et ceux de Los Angeles, tu vois, avec les Snoop, les Dre.
Pour ça que, bon, là, je suis là tout Jamal. C'est pour ça que même avec le mec de Place de Fête, quand on était avec Pete,
ouais.
Quand on se voyait, c'est pareil. C'est, tu vois,
il y avait déjà la connexion.
Il y avait une connexion sur les choses qu'on appréciait.
Ouais.
Qui était similaire, qui était différent de ce que les autres écoutaient, même si c'était des choses qu'on pourrait écouter par ailleurs, mais on n'épousait pas le style totalement.
Ouais, parce que même le style vestimentaire, ça changeait, tu vois. Ça veut dire que et après il y a eu aussi Arsenic qui est arrivé justement avec le Lacoste, le Croco, qui était justement la marque référence des banlieues, des cités, tu vois ce que je veux dire. T'avais un Lacoste, t'étais quelqu'un en fait.
Mais à l'époque même, ils avaient demandé. Bon après, c'est comme quoi, comme tu dis, c'est des ponts. Qu'à l'époque, ils avaient demandé à toujours dans le marketing le sponsoring. Ils avaient dit non, on sponsorise pas les Arabes et les Noirs.
Exactement.
Mais là, ils font que ça aujourd'hui, tu vois.
Et c'est bien d'en reparler, mais c'est vrai qu'ils arrivaient avec la casquette Lacoste. Tu voyais le survêt Lacoste et les Reebok classiques. Tu te dis, oh là là, dinguerie.
Ah non, eux, c'était full. Tu vois? Eux, c'était exagéré.
Ah, c'était partout. Le blanc, toutes les couleurs, tu vois.
Ah, mais comme quoi, ils ont, c'est eux qui ont instauré le truc et finalement.
Ah, c'était précurseur, bah, vraiment.
Enfin, c'est ce genre de marque qui court derrière ce genre de profil. Donc, ils ont réussi à inverser la tendance.
Aujourd'hui, 20 ans après, ils sont sponsorisés par Lacoste.
Voilà, ouais, c'est ça.
Donc, c'est beau, l'histoire est belle, finalement.
C'est pour ça qu'il faut jamais négliger. Il faut jamais négliger quoi qu'il arrive. Néglige jamais la personne que t'as en face de toi. Ah, okay, tu vois.
Et finalement, les rivalités entre tous ces groupes, les différents départements, etc. Je pense qu'elles poussaient chacun à faire mieux que le disque précédent, que les mecs des autres groupes.
Forcément, parce qu'il y avait déjà moins de musique, les styles et le projet qui représente un peu assez bien, même je dirais le. Cette époque-là, c'est le Didier Mehdi Made in France, là. Mmh. Tu vois, qui avait, enfin, les producteurs de musique, tu sais, ils avaient leur style. Mehdi, il avait son style à lui. Et, nous, chez nous, Finger, il avait son style à lui.
Finger, Jimmy Finger.
Pone, il avait son style à lui avec la funky. Donc, les gens, ils ramenaient des styles. Et quand ça prenait, bah, tout le monde adhérait, tu vois. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, que ce soit aux États-Unis ou en France, hein. C'est pas qu'ici. Et du coup, cette rivalité, ça poussait tout le monde à sortir des projets, des très bons projets. C'était vraiment, on prenait l'excellence.
Et il faut dire que, bien sûr. Et après, tu vois, tout ce que tu viens de citer, si tu vois bien, c'est-à-dire que, tu vois, les albums première classe et tout ça, c'est des classiques. Mais vraiment, quand tu parles de classiques.
Sans toute prétention gardée.
Ouais, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est. Voilà. C'est dans des playlists, tu vois. Mélik, t'es beaucoup plus jeune.
Ouais, bah je t'ai dit, j'avais pas l'historique et pourtant ces morceaux, je les ai, ouais, je les écoute.
Donc c'est pas pour rien qu'on appelle ça des classiques, tu vois. Et c'est bien d'avoir justement la construction de tout ça. Et toi, justement, à quel moment, là, t'as cette. Tu vois, il y a tout cet engouement justement derrière Sarcelles, derrière Secteur A et là, première classe. Et à quel moment, tu te dis, ça y est, tu deviens manager de telle ou telle équipe.
Bah en fait c'est simple, c'est un peu par la force des choses. Quand on fait les maxi, on sait pas où on va. On fait le maxi, ça marche, on presse. Et à l'époque, Kenzie nous accompagne parce que quand ça devient sérieux et qu'il y a le buzz, je sais plus comment on évalue le buzz, mais quand on a fait ces deux premiers maxi, il y a vraiment une buzz et on le ressentait. Et c'était des vinyles, il y avait même pas de CD, de cassette, donc ça tournait partout. Du coup. Le premier deal qu'on a fait, il nous a accompagné chez Hostile, parce que c'est lui qui avait l'expérience. Donc c'est lui qui avait négocié le deal à l'époque.
Et Hostile qui était une maison de disques aussi.
Voilà, chez Virgin. De la belle, exactement. Donc, vu qu'on était que 5, et dans les 5, il y avait 3 chanteurs. Déjà. Donc il a fallu qu'on se structure et commencer à réfléchir à comment on allait poursuivre ce travail-là qu'on avait initié. Comme une blague, en vérité, on s'est dit, à la base, c'était un kiff, en fait, de réunir ces rappeurs-là, que toi t'écoutes aujourd'hui, 25 ans après, sur un même disque, un même titre. C'est juste que, il a marché, c'est un projet qui a marché tellement rapidement. Et quand je te le dis vraiment, Clovis, toutes les semaines, il appelle, il faut ramener des vinyles. Okay. Tu vois, et quand c'est sorti sur CD, pour te dire même, à la base, même quand on sort le clip avec Rof et tout, parce que c'est en fin de cycle du projet, alors que c'est le premier morceau qu'on a enregistré. C'était un kiff pour nous, parce que quand Benjamin Chulvani, j'ai dit, bon, il faut faire un clip, vous faites lequel? Parce qu'on avait déjà fait L'Art de la Guerre.
L'Art de la Guerre, Ayam, ouais, exactement.
Ayam, Pete et Arsenic. Après, on s'est regardé entre nous, on s'est dit, bon, vas-y, venez, on fait le premier, c'est le plus vieux, mais c'est pas grave.
Et
c'est passé sur Skyrock, parce que le maxi, à l'époque, il passait pas sur Skyrock.
L'Art de la Guerre, tu parles?
Non, L'Art de la Guerre, parce que sur Skyrock, ouais. Animalement Vôtre, et un titre qui a marché, mais on l'avait pas clippé. Un morceau, il y avait Kerry James, voilà, ouais. Roca, exactement, Roca, Kerry James, Shuriken Dayam et Ahmed Day, de Sarcelles, de chez nous. On l'avait pas clippé, mais ça jouait à la radio, et nous, on a dit, on va clipper notre titre à nous. Et au final, c'était à l'époque un des titres les plus diffusés avec.
Il était incroyable celui-là. Ça veut dire que sur Skyrock, on était branché, on essayait de se brancher justement pour l'écouter le titre. Après, quand c'est sorti.
Non, ça passait. Franchement, en playlist, c'était énorme.
C'est énorme. Et justement, après, donc, il y a tout ça, il y a tout l'engouement, il y a l'album qui sort.
Ouais, l'album sort. Après, quand l'album sort. Le 18 mars 1999, pour être précis, il est disque d'or très très rapidement. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a plein de groupes qui se révèlent et derrière explosent. Ouais. À l'instar de 113,
Rof aussi.
Rof, Sniper. Ça veut dire tout. Enfin, les moins connus, c'est après notre disque, ce disque-là, ils ont été découverts sur ce disque-là et derrière, ils ont fait des projets qui ont été certifiés.
Et après, il y a ceux qui confirment aussi. Parce qu'il y a un Medday aussi, ouais, Mystique
ouais,
aussi.
Ouais, ouais Mystique ouais. Qui sort un album qui marche aussi. Avec après avec Bisson Abisso, mais il y avait. Bon, alors j'ai pas le tracklisting en tête, mais déjà je sais que Sniper c'est devenu un groupe énorme qui a été certifié très vite. Pareil pour Rof qui était sur le maxi en question. Mystique pareil. Les Nègres Marrons c'est après ce projet-là que l'album Le Bilan sort et cartonne. Qui est même certifié en streaming aujourd'hui. Donc ce succès-là, voilà, c'est ouais, parti. C'est le kiff de 5 potes initialement, et on l'a concrétisé et nous a poussé à se lancer dans le business en fait.
C'est incroyable, tu fais rêver. Franchement, musicalement, cette époque, elle fait vraiment rêver. Parce que le fait de le vivre de l'intérieur, ça devait être fou.
Ah oui, c'était fou.
C'était très 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 fou.
Ouais, j'imagine. On a beaucoup parlé de musique, merci beaucoup d'avoir retracé tout ça. On aurait pu le faire pendant des heures.
C'est clair.
On va se concentrer un peu sur toi.
Okay.
Tu nous as envoyé 3 morceaux, ces 3 morceaux qui te décrivent, qui décrivent un peu ton parcours. On va écouter un extrait de chacun et on va parler de ces morceaux.
Vous écoutez Focus sur IDFM Radio 98 FM.
Le militaire est prêt. Le militaire est prêt.
On se met 5 sur 5. Objectif en vue. Attendons plus de décision.
Déclencher les hostilités.
Sorti tout droit de la secte, le ministère mène enquête. Une seule chose en tête, anéantir les traîtres, accumulateur des dettes, des pays d'Afrique ou du tout politique. Ennemis de la démocratie, dictateur, endurci, sans souci du pays. Voici mes ennemis, tu tolères que ton peuple se terre dans la misère, récupère les biens monétaires pour te satisfaire. Arrache ta mère! Vulgaire est le caractère de mon ministère, j'espère être clair. Les traîtres en enfer, président, dirigeant, un gouvernement, marchand de la mort, chaque jour un noir, tu un noir. Mon ticket pose, je contrôle aujourd'hui et demande une pause, pause. Regardez la vérité en face et tu verras plus tard que tu n'as pas de place dans cette société qui a banni nos ancêtres. En attendant, je dis
trahison au sein de notre population, être ou n'être traître est une malédiction. Trahison au sein de notre population, être ou n'être traître est une malédiction.
Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ce morceau, qui l'a fait et ce qu'il raconte de toi, de ton parcours et de ton histoire avec la musique?
Alors, c'est Ministère Hammer. Le titre, c'est Traître. Et bon, c'est le Ministère Hammer, c'est le groupe qui nous a un peu mis.
Nous a lancé un peu.
Qui nous a pas lancé, mais en tout cas qui nous a donné envie de faire ça. Je suis dans ce clip-là, j'ai 14-15 ans.
On peut te retrouver?
Si tu regardes le clip, bon après, je suis jeune, j'ai pas de barbe, j'ai 15 ans, mais bon, si tu fais bien attention, tu me reconnais. Et voilà, c'est ce groupe-là qui a donné envie à pas mal de gars qui sont devenus sectorales de vouloir faire de la musique derrière. Et voilà, c'est la première fois que j'étais dans un clip. Tous les potes dont je t'ai parlé là, ils sont là, on est tous là. Ça lance l'histoire un peu de quelque chose, du ministère Hammer et en quelque sorte l'histoire du sectorat. Donc chronologiquement, c'est le premier qui va derrière découler de pas mal de choses, pas mal de groupes, un label, des sociétés. Ça part de cette histoire-là.
Est-ce que vous pensez, c'est une question un peu bête,
dis-nous.
Qu'aujourd'hui on pourrait encore faire du rap comme ça ou faut faire une croix dessus et garder au passé ce qui appartient, laisser au passé ce qui appartient au passé?
Bah de ce que j'écoute là, déjà des gens qui rappent et pas qui chantent, il y en a très peu en français.
Ok.
Là, je sais pas, j'écoute un peu, peut-être Niska, peut-être qu'il rappe un peu, mais la plupart des numéros 1, on va dire, en fait, ils chantent.
Ouais, c'est.
Tu vois, j'ai failli dire un truc pas sympa. Là, ils miaulent beaucoup, mais il n'y a plus de rappeurs. Tu vois, des mecs. Je parle pas forcément de revendications, parce que tu peux rapper la fête, tu peux rapper d'autres choses. Mais des mecs qui rappent, moi je trouve qu'il y en a de moins en moins. Sauf que des fois le vendredi j'écoute plein de trucs, tu vois. J'écoute tout en plus, hein, tu vois, même l'album de Niska et Nino, bon ça rappe un peu quand même. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins qu'avant.
Exactement, après c'est une époque, tu vois, c'est une époque à l'époque. Après quand on me dit il faut vivre avec son temps, mais tu vois le rap des années 90, 2000, même un petit peu après... plus.
Bah, déjà, les morceaux sont
plus. Ouais, c'est plus les mêmes, tu vois.
Une minute cinquante, parce que ça va streamer. Les gens aujourd'hui, ils ont pas le temps.
Ouais, c'est vrai, aujourd'hui, tu sors un morceau de déjà 4 minutes, on est en mode. Mais,
bah ouais, ils vont dire
trop long.
Qu'est-ce que tu me racontes, tu vois.
Aujourd'hui, on consomme tout rapidement, tu vois. Tout est facilité. T'as un portable, t'as un GPS. Nous, quand on allait en tournée, on avait une carte.
Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et je pense que niveau, il y a des revendications qui appartiennent à cette période-là, donc forcément les messages étaient forts, impactants, les gens se reconnaissaient, tout ça, t'en parlais tout à l'heure. Mais
maintenant
nous
les
trois,
jeux...
Jamal aussi, enfin on aime beaucoup ce genre de rap, ce qui vous a bercé dans votre enfance, moi ce que j'ai découvert en grandissant, par mes frères et sœurs, mon entourage, etc. Mais pour autant, aujourd'hui, si quelqu'un vient rapper comme ça...
Mais tu vas dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il me raconte?
Ouais, je vais avoir un peu du mal, tu vois.
Après, c'est notre époque, c'est comme dans tout. Aujourd'hui, même, on parlait de foot tout à l'heure, aujourd'hui, il y a trop de matchs, tu vois. Tu sais, les gros matchs comme ça, comme hier, il y a eu Real Madrid à Liverpool.
Et
avant, il fallait attendre.
Ouais.
Donc, ça devenait un événement, mais là, c'est devenu un bon... Il y a Mbappé, il y a tout, il y a trop de choses.
Il te donne tout de suite.
Ça s'est banalisé, tu vois. Il y a trop de matchs. Même avoir un match de l'équipe de France. Enfin, tu vois, nous, on a vécu, par exemple, France 98. C'était une dinguerie, en vrai. Tu vois. 2018. Non, quand j'ai dit 2018, ça veut dire, il y avait quand même, sur l'Arc de Triomphe, il y avait quand même écrit Zidane président. Tu vois. Tu vois,
et tu t'en rends pas compte, mais c'est vraiment une dinguerie.
Le peuple, c'était trop. Si tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre.
On avait la cote.
Non, mais c'est vrai.
Jamal, t'étais à ton prime.
Non, mais tu te rends pas compte. Mais je veux dire, même le chef, quand il te voyait, il avait même pas envie de te contrôler parce que c'était vraiment, on était vraiment dans un
truc. Ah, c'était la France Black Bomber. Exactement.
C'était pour de vrai.
Le regard avait.
Le regard était différent. Même si en 2018, il y a eu, pareil, les gens étaient contents et autres, mais c'était pas la même chose en termes d'engouement. Et parce que voilà, ils gagnent une Coupe du Monde, c'est un événement. Là, aujourd'hui, tu gagnes.
Ils ont gagné la Coupe du Monde.
Ligue des Nations, Ligue de ceci, machin.
C'est vrai qu'en fait.
Ça a plus de goût.
Et de toute façon, la première fois a toujours une saveur bien plus particulière que celle d'avant.
Ouais, mais même la rareté, en fait. Tu vois, c'est la rareté, ça veut dire qu'avant, tu t'attendais un an, deux ans, voire trois ans pour que les artistes fassent des albums, tu vois. Maintenant, ils font des albums tous les six mois.
Parce qu'en fait, quand ils écoutent, en fait, tu passes vite à autre chose. Même les jeunes aujourd'hui, je sais pas s'ils sont concentrés. Et même dans le sport. Dans le sport, quand on donne une tactique, t'es au basket, je sais pas. Le coach, il va te dire une fois, tu vas vite fait à penser à autre chose, à tes réseaux, à tes trucs, tu vois. Alors que, à notre époque, c'était pas comme ça. Un jeune, parce que j'ai beaucoup de neveux et autres, pour qu'il soit concentré une heure, pas évident.
Ouais, c'est sûr que les réseaux, les écrans, ça joue énormément.
Faut pas aller bien loin. T'en as en face de toi, Amélie.
J'ai tout oublié de l'émission.
Tu vois? Non, mais c'est vrai, c'est que maintenant, faut vivre avec son temps et tout ça. Et là, c'est bien de faire des piqûres de rappel. Et c'est pour ça qu'on parle d'éducation musicale aussi, tu vois. Parce que, avant, t'allais chercher aussi. T'avais des références. Les références, quand tu le disais tout à l'heure, c'était West Coast, East Coast, tu vois. Là, aujourd'hui, ils vont dire, il n'y a plus de référence par rapport à ça.
Oui, mais après, le panel d'artistes, de rappeurs, il s'est tellement élargi, je me fais un peu l'avocat du diable.
Non, mais t'as raison, tu vois.
Finalement, c'est comme le dopage dans le sport. Mmh. Par exemple, dans les sports de combat, si tu ne te dopes pas ou si tu fais pas de cutting, etc., je dis pas qu'il y a du dopage dans tous les sports, hein, bien sûr. Mais si tous les autres le font et que toi tu ne le fais pas, bah forcément tu vas être dépassé.
Ouais, non, c'est clair.
Donc là, si tu produis pas énormément comme la plupart le font, bah tu vas vite te faire oublier.
C'est pour ça qu'il faut dire, bah c'est comme ça, c'est une génération. Tu passes à autre chose. Peut-être que dans 10 ans, bah t'as vu, nos enfants, ils écouteront autre chose. Ça sera des musiques de 30 secondes, tu vois.
T'as pas, tu vois. Non,
c'est
pas, tu
vois. Ouais, c'est comme ça, tu vois.
C'est pour ça que j'écoute de tout et tout, mais bon, après, moi j'écoute de tout. Parce que justement, Sarcel, l'album 95-200, avait un slogan, c'était « Laissez personne se faire un avis à votre place ». Donc j'écoute tout. Il y a des trucs que j'aime bien en plus, des trucs que j'écoute et tout.
Ouais, on peut pas tout.
Tu vois, même La Fouine, tu vois, il est revenu, il s'est mis avec des jeunes, il y a des morceaux de lui et Youssoupha, tu vois, tout le monde s'accorde à dire que c'est excellent, tu vois. Donc bon, pour le coup, le mec qui a ramené du rap, c'est La Fune là, et puis l'album de Dinos aussi, c'est vrai que Stax, le morceau
exactement.
Qui est sorti là.
On allait en revenir.
Voilà, qui est sorti là il y a une semaine, je sais pas, je sais pas trop. L'album sort demain d'ailleurs en plus, enfin vendredi soir. Ouais, c'est ça, il sort vendredi soir. Il y a des morceaux de rap dedans, et ça fait plaisir.
Parce que pareil, après je pense que Dinos aussi, pareil, il doit avoir aussi une certaine culture musicale aussi qui est pas, même si c'est un jeune de cette nouvelle génération, tu vois. Je pense qu'il a dû écouter,
ah ouais,
il a dû être bousillé, tu vois, à à tout, toute cette époque, Secteur A, tu vois, tout.
Même américain, hein. Même Dinos, voilà, tu vois. Dinos, si tu fais un blind test avec lui, il est pas facile à battre, hein. Même moi, des fois, dis-moi, là, des fois, j'oublie, tu vois, il va, si tu lui mets un buzzer, il tape dessus, il te répond.
Et c'est ça le truc,
Mais Dinos, je sais pas s'il est si jeune que ça, hein. Moi, je l'écoute, ça fait très très longtemps, à l'époque.
Moi,
mon neveu, je peux te dire précisément l'âge qu'il a.
Je pense qu'il a moins de 30 ans déjà.
Non, il a 29, il va avoir 30, il va avoir 30 ans le 39.
J'aurais donné la trentaine.
Il aura 30 ans là.
Mais c'est un jeune dans le rap encore, tu vois ce que je veux dire. Il a commencé très tôt.
Il a commencé tôt.
Il était déjà signé, je pense. Il avait quel âge?
Je me souviens de morceaux de lui.
Non, en fait, lui,
il était signé déjà il y a longtemps.
Non, quand il rappait, moi, parce que quand il faisait les rap contenders, là, il avait 12, 13 ans, je crois.
Exactement.
Moi, je savais pas qu'il rappait.
D'accord.
Je savais pas qu'il rappait. C'est son frère qui m'a dit qu'il rappait. Et après j'ai vu des vidéos où il faisait des clashs avec des gens, il est petit. Je me suis dit putain.
Ouais mais il était déterminé.
Ouais déterminé, tu vois. Et après maintenant quand il a signé son premier deal chez Def Jam.
C'était très tôt, il avait quel âge? Il avait 16-17 ans je crois, non?
Non, il avait un peu plus. C'est parce qu'il était à la fac, je pense, il avait déjà eu son bac, un truc comme ça. Mais,
ok. Bon, en BTS. Parce que moi j'étais surveillant, je pense, à l'époque.
Non, il était jeune. En tout cas, il était jeune, c'est sûr. Mais ça fait déjà 10 ans qu'il sort des projets. Là, ça date de son 4e album là, qui sort.
En fait, c'est
qu'il a commencé jeune.
Il a commencé jeune, il est là, et puis.
Très jeune. 12-13 ans. Il frappait des gens.
C'est une belle transition en tout cas, tu vois.
Bah, on va passer au deuxième extrait.
Okay. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM.
Je suis le mec qu'on appelle mystique amente. Rien de la chaleur ici, c'est mucha caliente. Arrête, tu sais pas feinter, avec ton style emprunté. Je te laisse même pas le temps de finir, je veux te chienter. J'ai plus de drip qu'il y a de touches sur un synthé. Sale chienté, foutu dans ta tête et peinté. Moi je fracasse tout, à la télé kiffe pas du tout. Christine aux craintes, n'est crainte, c'est une touche d'ironie teintée. Chaque passage au micro testé, tu sais que je veux pointer. Voici le petit noir, café très très noir, beaucoup me déteste. Préfère un T3D, donne plus que le quinté. Dans mystique y'a quinté, trinqué. À la mienne santé, à ma souveraineté, dans ta main t'es.
Je vais te lâcher de rabot, crier à l'aide.
Même si je dérange, ma train même, chance s'arrange.
Je vais te couler comme du de chier et te fumer comme un spliff de zèbre.
MYSTIK, mystique, exactement.
Je vais te lâcher de rabot, crier à l'aide.
T'as une bombe première classe pour le nord, sud, est, ouest.
Je vais te couler comme du de chier et te fumer comme un spliff de zèbre.
Rappeur SOL, où tu sais, c'est Pitomai, Pitomai, Pitomai.
Même question, c'est quoi ce morceau de qui? On en a beaucoup parlé déjà au début de l'émission.
C'est vrai qu'on en a parlé avant, mais c'est le premier morceau que j'ai produit. Enfin, avec les cofondateurs avec les fondateurs du label Première Classe, c'est le premier projet qu'on a produit. Première fois qu'on a payé un studio, appelé des artistes pour enregistrer sur un titre.
On fait les choses.
Ouais. J'ai une anecdote alors, puisqu'on a beaucoup parlé de ce truc-là. J'ai parlé tout à l'heure de comme quoi les signes de la vie. C'était Kerry James qui devait faire le couplet de Rof de base. Donc c'est Rof, je l'expliquais. Et en réalité, la prod, c'est pas Jimmy qui devait la faire. C'était Black Mozart qui travaillait avec le Ménage à Trois à l'époque. Ouais. Tu vois. Et Black Mozart, il avait un studio où il travaillait de nuit, parce qu'à l'époque, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, le studio de nuit, c'était, tu vois, tu t'arrangeais, tu venais la nuit. Et il commençait à travailler avec James. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable. Et on n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis les séances de studio, c'est 8 heures de temps. Et on n'arrive pas à joindre Black Mozart. On l'appelle chez lui, il dort, pas de portable, on n'arrive pas à le joindre. On a déjà appelé le studio, on est là, il n'y a pas de prod. Et Jimmy Finger, si tu écoutes ce titre-là à la fin, dans les adlibs à la fin, il dit, Findus. Findus, parce que Finger, son petit nom, c'est Findus. C'est par rapport à ce titre-là. Parce que comme on n'arrive pas à joindre Black Mozart, on fait quoi? On appelle Finger. Ouais, t'es où? Ouais, je suis chez moi. On a besoin de toi au studio. T'as une prod? Ouais, j'ai une prod. Bon, viens.
Incroyable.
On va le chercher. Et en plus, il avait qu'une prod. Ça veut dire qu'il fallait qu'elle plaise à tous les rappeurs. Donc, c'était celle-là. Donc, Black Mo, quand il se réveille, il arrive, je sais pas, à 16h, le morceau est déjà enregistré. Et je sais pas, c'est là qu'il a dit, heureusement, il y a Findus. Findus. C'est le slogan de la pub. Et c'est pour ça que on l'appelait Jimmy le Findus, parce que quand on n'avait pas de prod, Bah, on a appelé Findus.
Vous saviez que vous pouviez compter
sur lui. Tu sais que tu peux compter sur lui, en plus, tu vois.
Non, mais la magie de ces moments, ça devait être incroyable.
C'est incroyable. Ouais. Et justement, pour parler de, c'était Black Mozart, c'est ça?
Ouais, Black Mozart. Ouais.
Après,
Black
c'est, ça, c'est tout ce qui est Mafia Tressée.
Non, c'était, Ménage à Trois.
Ménage à Trois. Ménage à Trois, avec James aussi.
Ouais, il a commencé avec James, celui qui a découvert James.
Exactement, ouais, c'est
et,
ça.
Et il a fait son premier album. Parce que elle avait un album jaune,
ouais, c'est
qui
n'a
pas marché. Ouais, ouais. Tu vois, et après, elle signe chez Hostile, et là, il y a l'album, il y a la boulette et autres.
Voilà.
Mais à la base, le gars qui découvre James,
c'est Black Mozart. Et mais là, c'est et qu'est-ce qu'il a dit? Mais justement, quand il écoute le morceau, il dit putain, c'est moi qui devais faire un morceau pour eux.
Ouais. Et à la fin.
Et à la fin, et qu'est-ce qu'il dit? Bah, il se dit quoi,
de toute façon,
il était en train de dormir. Bah, mais un réveil.
Tu sais, à l'époque, quand t'avais rendez-vous avec quelqu'un, vu qu'on n'a pas de portable, tu peux pas envoyer un message à un mec.
Ouais, compliqué.
J'arrive.
Une fois que t'es sorti de chez toi, t'es sorti de chez toi.
Ouais.
Rendez-vous à 16h. Ben, rendez-vous à 16h, c'est pour ça que t'as vu, je suis ponctuel.
Ouais, de fou. Et c'est vrai, en plus.
Rendez-vous à 16h, tu peux pas dire au mec, mais finalement, 16h30. Donc, quand lui, on a que le numéro de chez lui, va savoir où il a dormi. S'il n'est pas chez lui, tu peux pas le joindre, en fait.
Ah, c'est fou.
Tu peux pas le joindre. Donc, du coup, Finger, il était chez lui en train de faire du son, il avait une prod.
Ça, c'est beau.
Elle est magique, incroyable. En plus, la prod. T'arrives à mettre tout le monde d'accord, en plus, avec la prod. Mais en même temps, tu l'écoutes encore aujourd'hui, mais il est extraordinaire, le morceau.
Ouais, c'est un classique.
C'est un classique, vraiment, ouais, tu vois.
Finalement, les étoiles se sont alignées.
Tout est aligné, tout ça.
C'était ça. Les étoiles étaient alignées. Il y avait un mec qui devait pas être là. Un deuxième qui devait pas être là. Les remplaçants.
Ah, les remplaçants, ils ont été titulaires et ils ont pris. Mais c'est comme maintenant, t'as vu, les remplaçants, quand ils rentrent, ils sont un peu fatigués, mais à l'époque, tu rentres, t'es obligé. C'est ta chance, tu vois.
Ah bah ouais, faut te donner, c'est le moment.
Tu vois.
Bah, incroyable, merci pour l'anecdote. On va passer au troisième extrait et dernier, malheureusement.
Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM.
C'est fou ce que t'en passes vite. La vie, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui. Je repense à notre enfance, pas toujours aisée, sans trop dramatiser. Ce n'était pas toujours rose, c'est peut-être ce qui nous a motivés. L'esprit était Janek, marron, petit vagabond, la tête grainée. On préférait sécher les cours et rester spanné au quartier. L'excès de curiosité était tel qu'on s'enjaillait en suivant les aînés qui étaient pour nous des modèles à l'époque. Dans les halls, les gangs, breaks, meurent parfois, se rebellent. Hey, boy, b-boy, représentait Gare Charcel. Je me rappelle, temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans.
Dernier extrait, alors, est-ce que tu peux nous en parler?
Bien sûr, dernier extrait, celui-ci, pourquoi? Parce que quand les Nègres Marrons, c'est la nouvelle formation où ils deviennent Jackie et Benji. C'est à partir de cet album-là que contractuellement je suis leur manager. Et on enregistre ce disque qui va devenir leur premier succès et qui jusqu'à aujourd'hui, 25 ans après, parce qu'en 2025 cet album aura 25 ans parce qu'il est sorti aussi en mars 2000.
Mon âge.
Voilà, bah, voilà. C'est sorti en mars 2000, donc du coup, symboliquement et au vu du titre, c'est un morceau qui est assez important pour moi et pour mes potes qui sont les Jackie et Benji. Benji et moi, on se connaît depuis qu'on a 3 ans, tu vois. Et aujourd'hui, on est toujours ensemble. Jackie, il est venu un peu plus tard. Et j'ai eu les deux ce matin, on se parle quasiment tous les jours. Et même nos parents, parce que j'ai vu le père de Jackie il y a 3-4 jours. Nos parents, quand ils voient notre amitié, notre fraternité jusqu'à aujourd'hui, ils sont fiers de ça.
C'est incroyable.
Ah ouais, c'est magnifique.
Ah oui, c'est...
Et tu dis qu'à ce moment-là, t'es leur manager.
Ouais.
Contractuellement, ça veut dire qu'avant, c'était...
Parce qu'on a monté un label ensemble.
D'accord.
Donc, le titre d'avant, on a monté ce label ensemble. Mais eux, ils avaient déjà sorti un premier album, qui était Rue Cazeneg. Et j'étais avec eux, j'étais tous les jours avec eux, mais j'étais pas encore le manager officiellement. Mais après... quand le contrat, enfin la re-signature s'est négociée chez Sony, là j'étais présent et je suis devenu manager officiellement du groupe Nègres Marrons et de Pete McCartney aussi.
Et du coup, concrètement pour les gens qui nous écoutent et qui ne sauraient pas, c'est quoi le rôle du manager au sein d'un groupe comme ça?
Bah c'est l'interlocuteur principal, c'est lui qui s'occupe de négocier tout, hein, tu vois les contrats disques, concerts, tout. C'est t'es le prolongement du groupe, c'est-à-dire si t'as un besoin, que ce soit pour le groupe ou quelqu'un qui a besoin du groupe, ben, l'interlocuteur c'est moi.
Mais c'est quoi la différence du coup, toujours pour les gens qui ne sauraient pas, avec le producteur?
Le producteur, ben, il investit de l'argent, c'est lui qui paye. le studio, que c'est son investissement. Et le manager, en vrai, il est payé par l'artiste. En vrai, le manager, c'est, tu vois, c'est entre guillemets, l'employé de l'artiste. Donc, il est commissionné sur les revenus de l'artiste, alors que le producteur, il investit son argent, il a son marketing, recording, et puis à la fin, il récupère l'investissement et il paye l'artiste.
Très bien. Bon, okay. Moi, ce sera clair pour tout le monde.
Ouais, c'est.
Ouais, parce que c'est
bien, termes, c'est bien. Ouais,
on s'intéresse beaucoup aux artistes, un peu devant de la scène, mais il y a tout un travail en coulisses, dans l'ombre. Qu'on connaît moins, mais qui est tout aussi important.
En gros, sans les managers, les artistes, tu vois, ils sont un peu perdus, tu vois. Et c'est vraiment vrai, parce que ils sont, et c'est des personnes qui sont là aussi pour restructurer, pour, tu vois, des fois leur souffler dans l'oreille pour dire, attention, il faut, tu vois, il faut rester dans les clous.
Est-ce que c'est
important.
On parlait de la musique qui avait changé avec le temps, est-ce qu'il est tout à fait normal, mais est-ce que ce côté-là aussi, le management, ça a changé au fil des générations, est-ce qu'il est différent aujourd'hui par rapport à votre époque?
Moi, j'ai l'impression que les mecs d'aujourd'hui sont meilleurs.
Ok.
Parce que...
En termes de management,
nous, on a... Enfin, même les sommes d'argent qu'ils arrivent à négocier aujourd'hui, nous, on était en incapacité de faire ça, parce que nous, on commençait, et des fois, même, il y a des sommes... Quand on les entendait, on ne pouvait pas imaginer avoir de telles sommes.
Okay.
Mais par rapport à aujourd'hui, c'est ce que nous on touchait, c'était ridicule, en vrai, tu vois. Et même limite, je crois que c'est Lino qui disait dans une interview, la première fois qu'on lui a donné un chèque, il pensait qu'il les avait carottés. Tu vois. Il dit, mais ils s'en foutent pourquoi ils me donnent autant d'argent. Mais en fait, c'était rien.
Ouais, c'est...
Donc aujourd'hui, les gens, ils travaillent avec des avocats, ils sont vraiment mieux aguerris au niveau du business. Je pense qu'ils sont meilleurs que nous à l'époque.
Et ils sont meilleurs parce que vous avez posé les bases.
Vous avez enfoncé les portes aussi, tu vois.
Ouais. Non, c'est toujours comme ça. Après, tu vois, il y a quelqu'un qui enfonce les portes, comme tu dis. Et quand la porte est entrouverte, bon, toi, t'as le temps de voir un peu
comment ça se passe,
les obstacles éventuels. Tu vois, t'es mieux aguerri, c'est clair. Aujourd'hui, les mecs, quand je vois les deals qu'ils font, c'est incroyable. Des fois, il y a des mecs qui sont en millions d'euros, tu vois. Nous, c'était pas ça.
Et toi, pour parler justement du côté de management, aujourd'hui, ton activité principale
c'est... Mon activité principale, bon, je suis toujours avec mes gars qu'on a cités depuis le début de l'émission. Bon, je l'ai pas dit, mais maintenant, je vis au Cameroun, je vis plus en France. Je suis parti en 2005, donc je viens assez souvent et je produis beaucoup de concerts. Donc la plupart des stars que vous avez ici en France, généralement je les produis en concert au Cameroun. Et je produis aussi des documentaires pour Canal+. Okay. Donc mais sur mes activités ou des événements, des choses comme ça.
D'accord. Bah écoute, on va s'intéresser à cette partie de ta vie, le présent.
Vous écoutez Focus sur IDFM Radio 98 FM.
Toujours et encore avec Patrick Ebongué, dit Patou. De par ton discours, là, tout au long de l'émission, j'ai l'impression que la vie, finalement, de producteur, manager, elle est tout aussi incertaine, instable que celle des artistes. Toi, comment est-ce que t'as su rebondir et où est-ce que ça t'a mené cette expérience dans la musique?
Ça peut être instable, hein, puisque, on va dire, un artiste, en vérité, ou le manager, les ventes de disques ou des streams aujourd'hui, ça reste aléatoire, parce que ça dépend si.
Tu peux être
en studio, faire un truc, t'es persuadé que t'as fait un truc extraordinaire. Mais si le public répond pas présent, on va arrêter. C'est un peu aléatoire. Hein. T'as pas de revenus.
C'est ça.
Donc si l'artiste n'en a pas, en tant que manager,
vous êtes dans le même bateau.
Voilà, exactement. Donc ça peut être compliqué. Donc après, il y a deux options. Il y a des artistes qui arrivent à se diversifier, qui produisent, qui font d'autres choses. Ou quand ils font de l'argent, ils investissent dans des business aussi autres. C'est pas une mauvaise chose non plus. Hein. Mais c'est vrai que les ventes de disques, t'es quand même tributaire
du
public. Si le public te suit pas, tu fais pas d'argent.
Et toi, justement, parle-nous de ta reconversion. Justement, t'as vécu des années folles, justement, avec le Première Classe et toute l'équipe, justement, Negmaron, Pete. Quand ça retombe un peu, tu vois, le buzz, t'as connu le succès, vraiment. Donc, ouais. Et quand ça retombe, comment tu fais, justement, pour dire... il faut rebondir, il faut vivre aussi. Donc,
En fait, quand t'es un peu, quand t'as un esprit d'entrepreneuriat, tu sais, tu te laisses pas vraiment abattre. Hein. Sinon, je ferais un truc conventionnel, tu vois. Donc, quand ça marchait un petit peu moins, parce qu'à moi ça marchait un petit peu moins, j'ai essayé de prendre l'esprit de me dire bon, je vais aller déjà au Cameroun, me poser, voir ce que je veux faire. Et après, d'opportunité en opportunité, j'ai vu que je pouvais faire des choses. J'ai rencontré des agences, des sociétés, en parlant de mon parcours comme je suis en train de le faire ici, et que j'étais en mesure de leur faire, d'apporter des artistes sur scène pour des branding de marque. Le premier truc que j'ai fait, j'avais fait négocier un truc pour Fanta. Je faisais un rebranding Fanta Pomelo, ça s'appelait comme ça, tu vois, des Fanta, oui. etc. Ah, c'est intéressant, t'as accès à ces gars-là, ouais, bien sûr. Et puis en plus, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais venir mes potes. Vas-y, venez, il y a une marque là qui est intéressée par une prestation de vous. Moi, je paye mes gars bien, je négociais bien pour eux puisque je voulais qu'ils soient à l'aise. Et quand je me suis aperçu que ce qu'on peut gagner en France, on peut le gagner en Afrique aussi, je me suis dit, bah, pourquoi je vais revenir en fait, tout simplement.
Non, mais justement, ouais. Tu parlais d'Afrique, mais c'est le business, c'est le marché
C'est le marché de demain.
C'est le marché de demain, en fait.
Ouais, c'est clair.
Même les streams en Afrique et en Asie, là, ils ont augmenté. Bon, pour l'Afrique, c'est principalement, je sais pas si on va dire grâce ou à cause, mais du Nigeria, pour des gros artistes aujourd'hui.
Ouais, c'est clair.
Mais aujourd'hui, voilà, c'est le continent de demain. Et moi, j'ai eu la présence d'esprit d'y aller assez tôt.
Même si, d'une certaine manière, tu fais profiter ton savoir-faire,
aussi.
Ton carnet d'adresses, ton expérience au Cameroun.
Exactement. Et d'autres pays. Hein.
Ouais, c'est vrai que tu t'exportes.
Ouais, dans d'autres pays, je fais plein de trucs dans d'autres pays aussi. De la sous-région, je me déplace, je voyage. Tu vois, Côte d'Ivoire, je connais. Maroc, je connais un peu. J'ai déjà eu à faire des bookings là-bas. Et je travaille avec une structure marocaine qui fait des événements parce qu'ils ont une chaîne d'hôtels là. Je serai avec eux, tu vois. Donc, je serai avec des agences, je fais pas mal de choses.
Et ouais, t'as eu l'intelligence d'esprit, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais de partir super tôt. Enfin, là, ça fait combien de temps maintenant que t'es au Cameroun?
Je suis au Cameroun depuis 2005.
Voilà, tu vois, ça fait
presque 20 ans.
Ouais. L'année prochaine, non. Parce qu'on est en 2024, l'année est bientôt finie.
Tu vas les fêter?
Je vais fêter, parce qu'en vérité, en 2025, j'aurai 50. Donc,
double événement, en plus.
En tous les cas, je dois fêter quelque chose.
Et puis, il y a aussi l'album Les 25 ans aussi de Neg Marron.
Tout à fait.
Et justement, par rapport à ça, je sais qu'on aime bien fêter, tu vois, les quarts de siècle, les siècles, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer, justement, pour les Neg Marron, Pete, peut-être, ou?
Pour les Neg Marron, ils vont faire une tournée.
Ok.
Qui va s'appeler le bilan. Il y a des dates qui sont en train de se dealer. Moi-même, je suis en train de vouloir produire une date, je pense avril 2025. Je suis dessus là. Je fais Singila là le 13 décembre.
En France?
Non, à Yaoundé.
Au Cameroun?
Moi j'ai mon scope, Cameroun, c'est le Cameroun principal.
Si tu sais que nous on peut postuler au Cameroun, hein, si t'as besoin de nous. tu vois.
Ce sera les Neg Marron qui est un groupe de scène. On va faire, je pense, une tournée. Ils vont faire une tournée ici et je vais produire des dates en Afrique aussi.
Ah ouais, parce que. Et justement, on parle du bilan. Et toi, si t'avais à faire le bilan, justement, de tes 25 années de producteur, manager.
Compte tenu de la ville d'où l'on vient, on était en banlieue, on était à Sina. C'est un peu parfois n'importe quoi. Aujourd'hui, quand je vois où j'en suis, je peux dire que c'est une fierté, je suis content parce que on n'était pas prédestiné à avoir cette vie-là en réalité. Tu vois, voyager, faire de la musique, tu vois, on le faisait, mais c'était plus un hobby et c'est devenu un métier. Et bon, ça, c'est une réussite. Hein. Tout à l'heure, je parlais de nos parents respectifs qui nous voient encore aujourd'hui, animés par la même passion. Sans embrouille, parce que bon, il y a beaucoup de collectifs qui existent,
qui ont explosé aussi en route.
Il y a des guerres internes, exposées ou non, tu vois. Alors que nous, pas du tout. Tu vois, qu'on nous voit, certes, dans les concerts ensemble, mais dans les mariages, les anniversaires, les baptêmes, les je sais pas quoi. Tu vois, même les moments tristes et tout, on est toujours soudés, quoi. Et ça, c'est beau.
Et c'est bien de le préciser aussi, parce que c'est vrai que, tu vois, généralement, on met l'accent, en fait, sur le fait que. Bah, t'as vu, les groupes, ils se séparent. Tu vois, on met toujours l'accent aussi sur les moments un peu mauvais du business.
C'est plus vendeur.
Tu vois, c'est plus vendeur, tu vois. Ouais. Et là, le fait que bah, c'est une amitié qui dure depuis plus de 25 ans, 30 ans même,
plus. Donc, on a fait Benji, maternelle, primaire, collège. Ouais, tu vois.
Incroyable.
Tu vois. Par exemple, tu vois, Stomy et Passy, tu vois comment ils sont. Et c'est son cul et chemise, tu vois. Jusqu'aujourd'hui, ils ont plus de 50 ans, ils ont encore cette amitié-là qui les lie.
Ouais, c'est magnifique. Surtout que quand on mêle vie personnelle et professionnelle, ça peut être compliqué pour beaucoup de gens. Il y a plein d'historiques de personnes qui ont déraillé en route. Donc,
Et nous, on est une dizaine comme ça, tu vois.
Ouais, c'est magnifique.
Ça veut dire que à l'occasion, tu regarderas le clip de Trahison, de Traître.
Okay.
Regarde, tu verras que. Après, il y a moins de kilos,
non, mais ça...
moins de barbe. Mais si tu regardes
rigole, ça va t'arriver toi aussi. Hein.
mais si tu regardes ce clip, ce soir, tu me diras où, hein, tous ces mecs-là, là, qui sont dans ce clip qui est sorti en 89, ça veut dire 88, 89, ça veut dire 10, 12 ans avant que tu sois né. Ben, en 2024, ces mêmes mecs-là, tu vois, certains seront là demain à l'événement de Jimmy. Mais ils sont encore ensemble à faire des vannes ensemble, rigoler, boire, manger.
Incroyable.
Et ça, c'est inestimable.
C'est super fort.
C'est-à-dire là, je le rajoute tous sur le clip. 10 kilos, une barbe et je les reconnais.
Tu vas les reconnaître.
Je vais faire ça, c'est ça.
Non, c'est.
Il n'y avait que Doc Gynéco qui avait un costume ce jour-là. Lui, il dit avec un costume, on le voit à la fin.
Il était déjà décalé déjà.
Classement dans la barrette, il a déjà un costume dans ce clip, tu vois, vers la fin. Il y a un mec en costume, c'est le seul d'ailleurs. il a déjà un costume. Je pense le premier couplet, les refrains, tu vois, t'as les Nègres Marrons qui sont en train de chanter Trahison. Si tu fais attention, tu reconnais tout le monde, mais bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de moins de kilos.
C'est beau, ce sera mon exercice du soir.
Voilà.
Et par rapport à ça, après, le regard du quartier aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est vrai que tu commences à exploser. Est-ce que peut-être c'est un mythe ou pas, mais on se dit, bah, même le regard du quartier, des fois, il change. Et toi, par rapport à toi, vous.
Bah, en fait, ça, c'est le regard du quartier, mais en fait, c'est l'être humain qui est comme ça. Ça veut dire que il y a d'autres personnes qui font d'autres choses. Et ça marche peut-être bien pour eux. Peut-être que celui qui est dans le quartier qui fait pas grand chose, il va te regarder différemment. Ouais. Tu vois.
Il va dire t'as changé.
moi, hier j'étais avec un pote à nous qui s'appelle Salif, qui a sorti un livre,
okay.
Qui a aussi un parcours inspirant, différent du nôtre, mais qui a un mindset tellement de gars qui a faim, qui en veut. Tu vois, il a fait une cavale pendant 20 piges. Hein.
Ah ouais.
20 piges, je sais pas si vous avez vu son histoire.
Ça me dit quelque chose.
J'étais avec quelqu'un que vous devriez inviter.
Bah, on aimerait bien si, tu sais quoi.
L'appel est lancé, hein, tu
vois.
Plaisir,
et lui, c'est un mec, tu vois, c'est un mec de quartier, un vrai mec de quartier pour le coup, hein, tu vois. Mais, tu vois, il a des ambitions, il veut travailler, il veut faire des choses. Il a fait des marques de vêtements, il a été en cavale pendant 20 ans à New York.
Ouais.
Tu vois. Voilà, 20 ans à New York avant de se faire péter, tu vois. Et là, il est à Sarcelles. Donc moi je suis là, je suis à la gare, tu vois, c'est des mecs qui me connaissent, je suis assez respectueux, j'ai pas de problème avec les gens. Après, je suis assez clair aussi dans les rapports humains. Donc moi j'ai pas eu de problème avec les mecs de mon quartier, à titre perso, et Nélèque Baron non plus, tu vois. On n'a pas eu de problème spécialement en vrai. Après, quelqu'un qui est jaloux...
Ça t'en as tout le temps, tu vois.
Tout le temps, des fois même t'es juste avec une meuf qui est un peu jolie, et le mec il a le seum, tu vois. Donc c'est l'être humain quoi qui est comme ça.
Ouais, c'est vrai. Non, tu l'as bien résumé. Patrick, on a passé une superbe heure avec toi.
Merci.
Le genre de profil avec qui le temps passe très vite.
On aurait pu continuer
encore pendant très longtemps, je pense.
Ouais.
Au plaisir de te retrouver derrière le micro, peut-être pour un prochain épisode. Je crois que Sidi a quelque chose à ajouter.
Non, mais en tout cas, enfin, moi, ça me fait plaisir justement que t'aies répondu présent par rapport à ton parcours, par rapport justement à ce que t'as fait dans la musique et ce que tu fais encore actuellement, et de pas oublier, parce que tu vois, nous, on est quand même encore en banlieue, même si on essaye de s'ouvrir et se développer.
Je suis en banlieue aussi, mais c'est en Afrique.
Ouais, mais et en fait, et le fait de pas oublier, tu vois, c'est ça qui est beau, tu vois, que t'as côtoyé des grands noms de la musique, et le fait de revenir aussi et de dire que je vais passer du temps, parce que tu fais des choses aussi pour la jeunesse aussi au Cameroun, tu fais des masterclass, et de venir et de dire que moi à l'émission je viens et puis je viens soutenir aussi, c'est
fort. Surtout qu'il est au Cameroun et qu'il est en France et qu'il a pris du temps sur son passage ici pour.
Ouais,
pour
non, mais de toute façon, comme j'ai dit hors antenne. On est pareil, tu vois, Sidi, Jamal, tu vois, on a des amis en commun. La personne, Camille, dédicace, qui m'a fait venir ici, en tout cas, qui m'a demandé de venir, je rencontre des frères. Donc, moi, si je peux partager mon expérience, si elle peut être inspirante.
Elle l'est.
Parce que les rêves, on les a eus, hein, c'est des rêves, hein. Je parlais tout à l'heure des anecdotes, on se dit, on va faire ça, on va faire ça. Après, on a dit, vas-y, on le fait. On le fait. Et bon, après, il y a d'autres qui le font aussi, qui ont cette volonté, cette motivation. Après, ça paye pas forcément pour tout le monde. Nous, ça, on a pu avoir un petit bout de chemin, et tant mieux. Mais faut pas lâcher. Hein. La résilience, nous, les mecs de quartier, de manière générale, la résilience, c'est le bon terme pour Salif, pour vous, parce que tu préfères autre chose, mais tu veux transmettre, et la transmission, ça se fait de moins en moins.
C'est vrai.
Et écoutez, des gens qui racontent leur parcours, ben, ça peut inspirer, quoi. Et pour ça, tu m'appelles à 8h, 22h, minuit, 2h du matin, je veux venir. Si je suis en santé, en tout cas.
Bah, merci pour ça. En tout cas, merci pour ça qu'on t'a reçu.
Merci. Tu viens d'avoir invité.
Tu viens à peu près de le faire, mais on aime bien laisser le mot de la fin à nos invités. Est-ce que t'as un petit message à passer, quelque chose à ajouter?
Je viens de le faire, là.
Ouais, la résilience.
Ouais, la résilience, ouais, voilà. Bah, le mot résilience. Résilience, ouais, ouais. Soyez résilient, n'abandonnez pas, tu peux tomber une première fois, mais quand tu tombes, il y a un proverbe comme ça qui dit on apprend à marcher en tombant. Donc quand tu tombes, il faut que tu te relèves parce que tu dois marcher.
Et c'est sur ces mots qu'on va conclure. Merci Patrick, merci Sidi,
merci à vous.
Farah.
Merci Farah, je pensais que tu serais là avec nous, mais bon, finalement non.
Elle a fait sa timidité.
on se retrouve vendredi prochain sur IDFM 98 FM.
Merci à vous.
Merci l'équipe.